Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile que je dis de Christ selon Saint-Luc.
Gloire à toi, Seigneur. Mes amis, en 1917, on avait découvert, proche de la ville d'Alexandrie, dans l'Égypte actuelle, un papyrus. Et sur ce papyrus se trouvait une belle prière adressée à Marie. Les premiers mots disent à peu près ceci: sous ta miséricorde, nous nous réfugions. Mère de Dieu. En fait, c'est pour dire que cette prière-là, adressée à Marie, l'appelait, c'était en grec, l'appelait déjà Mère de Dieu. C'est parce que, officiellement, on avait toujours pensé que ce titre de Marie, Mère de Dieu, qui est le premier titre que l'Église a reconnu à Marie officiellement, beaucoup pensaient que c'était peut-être au 4e siècle, et certainement, ce titre lui a été donné au 5e siècle officiellement par le concile d'Éphèse en Turquie actuelle. Mais ce texte-là, trouvé en Égypte, montre que le papyrus, le texte, date de plus ou moins 250-280. Donc pour dire que le titre de Marie, Mère de Dieu, date d'assez longtemps. Et même, s'il faut aller plus loin, il faudrait se dire que la place de Marie au sein de l'Église a toujours été une place spéciale. Regardez au début de l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, au chapitre 1, verset 14, où on dit, voilà que les disciples du Seigneur étaient ensemble et d'un seul cœur, ils priaient, ils vivaient leur expérience de disciples avec d'autres femmes qui étaient avec eux et Marie, la mère de Jésus. Donc pour dire que déjà au début de l'Église, Marie avait une place spéciale au sein de la communauté. Et même quand l'événement de la Pentecôte a eu lieu, il est dit dans le livre des Actes des Apôtres que Marie était au milieu des apôtres quand l'Esprit du Seigneur est descendu. Donc, pour dire que Marie, certainement, au début de l'Église, avec l'absence de Jésus, les disciples, les premiers disciples, se sont tournés vers elle, certainement pour s'inspirer, pour avoir plus de renseignements sur son fils. Et dès le début de l'Église, Marie a été celle-là qui a encouragé la prière, la concorde, l'entente entre les disciples de Jésus. Et quand les disciples sont sortis à la Pentecôte pour aller annoncer pour la première fois l'Évangile, Marie soutenait cette action parce qu'elle était ensemble avec ses disciples, avec les disciples de son fils. Alors, pour dire, maintenant que l'Église place Marie au centre de nos vies, au centre de notre spiritualité, peut-être le moment est venu pour chacun, chacune d'entre nous, pour dire où est-ce que nous nous situons vis-à-vis de Marie, Mère de Dieu. Je regarde la première prière eucharistique, dit à peu près ceci, voilà, dans toute la communion de l'Église, nous voulons nommer en premier lieu Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Jésus. Voyez-vous? Donc, pour dire que Marie est considérée comme la première disciple, celle qui a cru la première, celle qui est notre modèle. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait la porter dans notre cœur. Elle est notre modèle. Elle est notre modèle dans la manière d'accueillir la parole de Dieu. Elle a cru à ce qu'on lui a dit. Elle a donné au monde son Fils, le Verbe incarné. Elle ne l'a pas gardé pour elle, elle l'a donné pour la rédemption du monde. Alors, dans notre spiritualité, nous aussi nous sommes appelés à ne pas garder Jésus en nous. Elle a gardé 9 mois en elle, mais elle a toujours gardé dans son cœur. Toute sa vie, elle a gardé dans son cœur. Et que nous, les chrétiens, nous sommes appelés à faire la même chose. On garde Jésus, mais on le donne en même temps. On le donne par nos activités, par nos gestes, par nos paroles. Et si on le donne, c'est parce qu'on l'a dans notre cœur. Si on ne le garde pas dans notre cœur, on ne peut pas le donner. Ça, c'est l'exemple que Marie nous donne. Mais le plus beau, c'est ce que Luc nous dit aujourd'hui. Il dit, Marie, conservez tous ces événements-là dans son cœur, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle a vu autour de son fils, et le gardait dans son cœur. Elle méditait. Donc, il y a eu la contemplation et l'intériorisation. C'est que Marie prenait ces événements-là et elle offrait sa prière. Sa prière était formulée à partir des événements qu'elle a vécu. Elle a vu comment, quand le moment était arrivé, elle a dû se déplacer, partir de Nazareth jusqu'à Bethléem. Arrivée à Bethléem, elle était à son terme, elle devait mettre au monde. On cherche une place, on n'en trouve pas. Elle est partie mettre son enfant au monde, son enfant dans une crèche. Tous ces événements-là, Marie le gardait dans son cœur et les conservait. Ensuite, il y a eu cette présence des bergers qui sont arrivés de je ne sais où et ils disent qu'ils ont reçu un message de l'ange leur indiquant où se trouvait l'enfant. Puis il y aura aussi les rois mages avec l'évangile de Matthieu. Pour dire, les événements que Marie a vécu autour de son fils, les événements de son existence, eh bien, c'était intériorisé dans la prière. C'était mis dans son cœur, elle les contemplait, elle priait avec ces événements-là. Donc, elle nous invite, nous autres là, à devenir des contemplatifs et des contemplatives dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Notre prière ne doit pas être comme une spéculation. La prière ne n'est pas des nues. La prière ne n'est pas de nulle part. La prière, ce n'est pas une spéculation. La prière, on la formule à partir de notre existence, à partir de nos expériences, à partir de nos événements que nous vivons tous les jours. Voilà la vraie prière. La prière, c'est quand nous venons de terminer la fête de Noël, c'est voir les enfants que nous avons reçus, les personnes que nous avons rencontrées, les joies que nous avons ressenties, les cadeaux que nous avons reçus, prendre ces événements-là, le mettre dans le cœur, le ressasser, prier, contempler, garder silence. Et formuler la prière à partir de ce que nous avons vécu. Nous sommes en train de finir une année, on l'a fini, on commence une nouvelle. C'est pendant encore les événements que nous venons de vivre durant l'année qui vient de s'écouler, les événements qui nous ont coûté cher, qui ont été difficiles, les événements qui nous ont remplis de joie, des événements qui nous ont épanouis, c'est prendre cela et formuler notre prière. C'est ce que Marie nous enseigne. Prendre les événements, les méditer, les contempler et formuler une prière à partir de cela. Les bénédictions que nous avons reçues du Seigneur, tout cela on le prend et on ouvre le bras et on loue le Seigneur, on lui demande de nous accompagner durant cette nouvelle année qui commence. Donc, nous sommes appelés durant cette nouvelle année à devenir plus méditatifs, plus contemplatifs, plus silencieux, plus priants. Alors, c'est la grâce que nous allons demander dans la messe d'aujourd'hui. Mais regardez, Marie est appelée aussi la reine de la paix. Elle a donné naissance au prince de la paix. Une des paroisses que j'ai fréquentées dans mon enfance avait le nom de Marie. Plutôt Notre-Dame de la Paix, paroisse Notre-Dame de la Paix. Donc pour dire qu'en fait, parler de la paix au jour de l'an ne nous éloigne pas de Marie du tout. C'est encore Marie qui vient nous encourager à embrasser la paix. à vivre la paix dans le monde aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé le message que le pape nous adresse durant le jour d'aujourd'hui, pour cette année que nous venons de commencer. Le titre, c'est la non-violence. Voyez-vous, la non-violence, ce n'est pas une tactique, ce n'est pas une stratégie que nous prenons pour trouver, atteindre nos buts, du tout. La non-violence fait partie de l'essence de ce que nous sommes, fait partie de nous-mêmes comme êtres chrétiens. C'est la voie tracée par notre Seigneur, par l'enfant de Bethléem, quand il est devenu adulte. La non-violence vient avec notre Seigneur quand il nous a parlé de l'amour inconditionnel du Père. La non-violence se forme déjà avec l'enseignement de Jésus sur l'amour pour les ennemis. La non-violence s'exprime quand notre Seigneur dit « On t'a frappé de la joue droite, présente la joue gauche ». La non-violence est exprimée dans notre Seigneur quand il était crucifié sur la croix, il est en train de mourir et il pardonne à ses bourreaux, il pardonne à ses ennemis. Ça a été le style de vie de notre Seigneur. La non-violence, ce n'est pas le rejet de l'injustice, ce n'est pas la fuite de l'injustice. Ce n'est pas une fuite. La non-violence, c'est couper avec la spirale de la violence, de tuerie, de l'injustice. Que le mal qu'il nous a fait, nous ne le retournons pas par le mal, nous le retournons par le bien. C'est ça, la non-violence. Regardez des personnes comme Gandhi, qui était hindou, mais qui admirait Jésus et qui s'est inspiré de notre Seigneur pour son mouvement de la non-violence. Et ce mouvement-là a conduit l'Inde à l'indépendance. Regardez pas loin de chez nous, Martin Luther King Jr., un baptiste, un protestant, un pasteur baptiste. Il s'est inspiré de notre Seigneur, de l'Évangile, pour lancer son mouvement de libération civile, son mouvement pour faire sortir les États-Unis de la voie officielle de la discrimination raciale. Il a réussi par la non-violence. C'est une force, la non-violence. Et c'est la voie de notre Seigneur. On raconte que Mère Teresa, en 1979, quand elle a reçu le prix de la paix, le prix Nobel de la paix, alors elle est entrée, elle a fait son discours, et dans son discours, elle a fait allusion aussi à la non-violence. Elle disait, regardez, moi et mes sœurs, nous n'avons pas d'armes sophistiquées pour arriver à notre but, à nos buts. Nous n'avons pas de bombes du tout, mais nous avons l'amour. Nous essayons de conquérir chaque cœur, cœur à cœur, par amour, par la bonté. Et c'est ainsi que, de plus en plus, nous essayons de changer notre milieu de vie. C'est cela, la voie de la non-violence. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à suivre l'exemple de Marie, elle qui est calme, qui a donné naissance au prince de la paix. Nous sommes invités à devenir des personnes non-violentes. Enlevons la violence dans notre cœur. Parce que la violence peut être aussi là. Et puis, il ne faut pas seulement s'attarder à la violence physique. Il y a aussi la violence verbale. Ces mots durs qui peuvent dénuder quelqu'un, diminuer quelqu'un, tuer quelqu'un devant les autres. Donc, on veut sortir de cette philosophie, de cette attitude-là. C'est la résolution que nous allons prendre, vous et moi, durant cette nouvelle année. Nous avons déjà des résolutions dans nos vies, c'est bien. Mais comme communauté, comme chrétiens, nous allons prendre cette résolution-là de devenir de plus en plus de personnes non-violentes. Et cela, on va le commencer d'abord dans nos propres familles, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, leur inculquer la culture de la non-violence, de retourner le mal par le bien, de retourner l'injustice par la justice. Alors, c'est ce que nous devons petit à petit commencer à intégrer dans notre vie, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos paroisses, dans nos familles, dans notre entourage, parce que nous sommes des disciples du Christ et c'est la voie qu'a tracée notre Seigneur Jésus-Christ. Je termine avec l'invitation de suivre l'exemple de Thérèse de Lisieux, elle qui nous invite à prendre la petite voie de l'amour. Si nous voulons devenir des personnes non violentes, suivons cette voie-là. Si nous voulons contribuer à la paix dans le monde, prenons la voie, la petite voie de l'amour, c'est-à-dire tous les jours, au quotidien, faire des petits gestes d'amour et d'amitié. Présenter son sourire, faire une caresse, avoir un mot doux, être gentil, montrer la bonté. dans des petites choses de tous les jours. Comme cela, notre mentalité, notre cœur, toute notre attitude va refléter cette vie de la non-violence, va refléter cet esprit de la non-violence. Alors on va demander que l'Eucharistie de ce matin puisse nous habiter au début de cette année, qu'il puisse nous changer, nous transformer et faire de nous des personnes qui bâtissent un monde nouveau, un monde de la paix, un monde non-violent, un monde d'amour. Amen.